nzamba
nzambi rasamirana Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce journal en français de la radio Inzamba Agathe Kakaawe. Tout d'abord, les titres de ce jeudi 22 avril 2021. Les déplacés du site de Wuraza dans la province de Gitega craignent d'être expulsés de leur site. Un projet de construction d'un hôpital sur le site les inquiète. La société civile dénonce une déstabilisation de ces déplacés de guerre qui se trouvent déjà dans une situation de détresse. Dans la province de Makamba, la Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, reconnaît que les anciens propriétaires des terres ne doivent pas être chassés de leurs biens, malgré de multiples contestations de la population. Et puis l'ONG locale Parsem propose une refonte des stratégies de lutte contre la corruption. Elle appelle les autorités burundaises à prendre le devant dans le combat contre ce fléau. Voilà pour le sommaire.
Inzamba.
Les déplacés qui occupent le village de Wuraza dans la province de Gitega craignent d'être expulsés de force. L'administration de cette province du centre du pays explique que le terrain sur lequel est érigé ce site de déplacés va abriter un hôpital. Des explications qui n'ont pas convaincu les déplacés car la commission du président de la République, qui était à la recherche de ce terrain au départ, n'avait pas touché un seul mètre du site. Les précisions avec Alexandre Niungeko.
Tout commence avec la visite d'une commission du bureau du président de la République au chef-lieu de la commune de Wuraza. C'était au mois d'octobre dernier. Selon des sources sur place, cette commission était chargée de repérer un terrain sur lequel sera érigé un hôpital dans le cadre de la mise en exécution du projet du président Évariste Ndayishimiye visant à doter à chaque commune du Burundi un hôpital digne de son nom.
Le président de la République a promis de construire des hôpitaux dans toutes les communes du Burundi. Après, la commission de suivi est venue au début du mois d'octobre. On leur a montré la parcelle qui se trouve à côté du centre de santé. C'est un terrain appréciable et la commission l'a accepté. La commune aussi a donné son autorisation à la commission de prendre ce terrain si elle l'apprécie. La commission est partie.
Les habitants de ce site, devenu aujourd'hui un village de paix, s'étonnent quelques semaines après de voir certains agents de l'administration locale, du parti CNDD-FDD et des jeunes Imbonerakure de cette commune intervenir. Ils font comprendre aux déplacés du site de Wuraza que désormais c'est dans ce site que sera érigé cet hôpital.
Ce sont eux qui ont organisé ces pseudo-réunions pour changer ce qu'avait fait le premier groupe pour qu'au lieu de construire dans cette parcelle, ils construisent dans la parcelle de l'autre côté où commence le site de déplacés dans lequel on trouve plusieurs maisons, de façon que nous soyons nombreux à se retourner dans la rue sans abri.
Et pourtant, parmi ces locataires de ce site, certains ont contracté des dettes bancaires pour construire des maisons en dur et pour tout dédommagement, ce groupe d'administratifs et Imbonerakure aurait prévu de remettre seulement 20 tôles à chacun pour qu'il regagne sa colline d'origine. Ces déplacés sollicitent l'intervention de tout un chacun pour arrêter ce plan qui vise à les chasser coûte que coûte de ce village. La rédaction de la radio Inzamba a essayé de joindre l'administrateur communal de Wuraza sans succès. Et vous saurez que ce site de déplacés de Wuraza a été créé en 1993 après l'assassinat du président Melchior Ndadaye et la crise qui s'en est suivie. Il compte aujourd'hui près de 500 ménages.
Vital Chimirimana, le délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, FORSC en sigle, estime que le projet de construire un hôpital sur un site de déplacés ne viserait qu'à déstabiliser ces déplacés de guerre qui sont déjà vulnérables. Je vous propose d'écouter sa réaction.
Nous savons que des activités de développement qui se mènent dans des communes sont profitables pour les populations en général, mais ceci ne peut être envisagé en tenant compte de l'intérêt des concernés. C'est une entreprise qui doit être revue pour l'intérêt de tous, parce qu'autrement, ça voudra dire que le gouvernement ou du moins les initiateurs de ce projet sont plutôt motivés par une volonté d'anéantir économiquement et socialement cette partie de la population. Et aujourd'hui, il est impensable que on puisse déstabiliser une catégorie de la population par ailleurs vulnérable pour prétendre à une activité de développement de la commune. Les personnes qui ont été installées sur des sites de déplacés après la crise de 1993 sont majoritairement des personnes relevant de la composante ethnique Tutsi. Ce sont des rescapés des massacres qui ont par ailleurs été qualifiés de génocide des Tutsi par une commission d'enquête des Nations Unies en 1996. La commune de Buraza a d'autres propriétés domaniales sur lesquelles elle peut ériger un hôpital public.
En province Makamba, une partie de la population se dit contre les décisions de la Commission nationale des terres et autres biens. La CNTB a décidé de ne pas exproprier les anciens propriétaires terriens. Cette décision de les garder chez eux a commencé à être mise en application dans la commune Nyanzalak, au sud du pays. Ces anciens propriétaires demandent que d'autres communes de la dite province tirent profit de la décision. Les explications dans ce reportage signé Raoul Nguengurutse.
Comme l'indiquent les habitants de la commune Nyanzalak, la Commission nationale des terres et autres biens a fini par comprendre l'origine de la lamentation des résidents de cette commune. La décision de non-expropriation des résidents a été prise après plusieurs jours de contestation contre la mise en application de cette mesure sur plusieurs collines de la commune Nyanzalak. Selon ces résidents, des magouilles se faisaient entre les rapatriés et certains membres de la commission. Certains rapatriés pouvaient obtenir plus de 30 propriétés sur différentes collines alors qu'ils n'ont jamais habité sur ces collines. La pratique de faux et usage de faux était aussi devenue monnaie courante sur cette localité du pays. Signature imitée, documents falsifiés, tout cela compromettait le travail de la CNTB. Nous n'avons pas pu joindre le représentant de la CNTB en province Makamba pour qu'il donne plus de lumière sur la gestion de ce genre de contentieux en province Makamba.
La route nationale 3 est bloquée depuis ce mercredi au niveau de la colline Rukonwe en commune Mabanda. Il s'agit d'un glissement de terrain selon les usagers de cette route reliant la ville de Rumonge et la province de Makamba au sud du Burundi. Le trafic sur la RN3 est donc paralysé. Les mêmes usagers appellent à une réhabilitation d'urgence. Josine Kadze.
C'est une partie de la montagne qui a glissé vers la route RN3 dans la localité de Rukonwe, dans la commune Mabanda de la province Makamba. La route est donc impraticable depuis l'après-midi de ce mercredi. Les conducteurs des voitures, des motos ou des vélos ont essayé de s'offrir un chemin qu'ils peuvent emprunter, mais c'est avec difficulté selon des sources sur place. Les usagers de cette route grognent pour n'avoir pas d'autres voies menant dans les villes de Makamba ou Rumonge. Cette partie de la RN3 endommagée s'ajoute à celle située dans la zone Mukungu-Mvugo, dans la commune Nyanzalak, où la route est devenue difficilement praticable à cause des nids de poules qui dérangent beaucoup les conducteurs des véhicules. Les gouverneurs des provinces Makamba et Rumonge s'y étaient rendus ce mardi pour constater l'état des lieux. Ils partagent les mêmes inquiétudes que les passagers et chauffeurs sur les délabrements de la RN3. Consolateur Nitunga, gouverneur de Rumonge, indique que la route ne peut pas être fermée car elle présente un atout sur les liaisons commerciales entre les deux provinces du sud du pays jusqu'en Tanzanie.
Nous n'envisageons pas la fermeture de cette route. Comme vous le savez, c'est une route qui est très importante dans le commerce, qui est très importante pour l'économie du pays, de nos provinces, de la Tanzanie, voire même d'autres pays qui utilisent cette route. Donc, nous demandons à ce que l'agence routière du Burundi puisse se déplacer et aller sur le terrain et constater et prendre d'autres stratégies qui peuvent être provisoires en vue d'assurer le mouvement, le trafic convenablement qu'il le faut.
Les usagers de cette route font près de 2 heures de Nyanzalak à Rumonge, en trajet pourtant d'une cinquantaine de kilomètres.
Inzamba. Du maïs serait en train d'être importé clandestinement depuis la Tanzanie vers les communes Giterani et Muyinga, des actes attribués à certains commerçants de cette province frontalière avec la Tanzanie. Selon des sources concordantes dans ces deux communes, cela inquiète beaucoup les agriculteurs qui craignent de ne pas trouver de marché pour leur maïs, car les centres de collecte de leur production sont inondés par des grains en provenance de la Tanzanie. Plus de détails avec Alice Akimana.
La campagne d'achat des grains de maïs des agriculteurs a été ouverte le lundi 12 avril dans tout le pays. Mais en province de Muyinga, les agriculteurs des communes Muyinga et Giterani disent que cette campagne risque d'être handicapée par des fraudeurs qui font entrer en clandestinité du maïs en provenance de la Tanzanie. et pour le revendre dans des points d'achat réservés à des agriculteurs locaux. Ces derniers redoutent une mévente de leur production à cause de ces grains qui viennent de l'extérieur. Selon eux, même si les fonds destinés à l'achat de leur production ne s'épuisent pas, il risque d'y avoir un certain type de matériel de conservation comme les emballages. Les commerçants fraudeurs feraient une course effrénée derrière ces grains de maïs de la Tanzanie parce qu'ils l'achètent à moindre coût. Selon les sources sur place, le kilo de ces grains s'achèterait entre 250 et 300 francs burundais et il s'écoulerait ensuite au Burundi au prix fixé par les autorités à 680 francs.
La liste de certains prisonniers qui vont bientôt être relâchés par grâce présidentielle est désormais connue dans une partie des maisons de détention du Burundi. Il s'agit des prisonniers qui ont été arrêtés au cours des manifestations contre le troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza en 2015, ainsi que d'autres prisonniers qui avaient déjà été condamnés par les juridictions burundaises. Le point avec Nadine Mohorakei.
C'est dans la journée de ce jeudi que les prisonniers de la maison de détention de Gitega, ceux de la prison centrale de Bujumbura d'Imimba, ceux de Moramvya, ceux des maisons d'arrêt de Ngozi, que ce soit les hommes, les femmes ou les mineurs, ainsi que ceux de la prison de Muyinga, ont pris connaissance de la liste des détenus qui vont bientôt être libérés par mesure de la grâce présidentielle. Les sources de la radio Inzamba Gate Kakawe dans ces différentes prisons révèlent que ceux qui ont retrouvé leur nom sur ces listes sont essentiellement les prisonniers de droit commun, certains manifestants contre le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza, ainsi que quelques anciens des corps de défense et de sécurité qui étaient poursuivis pour des crimes à caractère politique, mais dont les décisions de leur procès avaient déjà coulé en force de la chose jugée. Certains des prisonniers ne figurant pas sur cette liste, alors qu'ils estiment être dans les mêmes conditions que les autres, accusent les juges en appel de ne pas avoir prévu des séances d'audience pendant bientôt plus de 5 ans pour certains, relatent toujours les mêmes sources. Il est normalement prévu une séance de formation patriotique avant la remise des billets d'élargissement depuis ce jeudi. Mais jusque dans l'après-midi, cette formation n'avait toujours pas commencé. Il est aussi prévu que la délégation du ministère de la Justice continue leur descente dans les prisons de Bubanza, Bururi, Rutana, Rumonge, Ruyigi. En se basant sur ce calendrier déjà publié, les premiers prisonniers rentreront chez eux le lundi 26 avril prochain. Pour rappel, cette grâce présidentielle pour plus de 5000 prisonniers a été signée le 5 mars de cette année.
Le système judiciaire burundais et les institutions œuvrant dans la lutte contre la corruption doivent être réformés pour une bonne lutte contre ce fléau qui gangrène le Burundi. C'est le point de vue de l'ONG locale Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM en sigle. L'ONG estime aussi que ceux qui sont appelés au poste de responsabilité devraient prendre le devant, surtout en déclarant leurs biens dès leur entrée en fonction. Écoutons Faustin Dikoumana qui s'exprimait dans un point de presse ce jeudi.
D'abord, il faut une campagne de sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption. Savoir lier la pauvreté habituelle et l'état de la corruption. Cette sensibilisation aboutit à une dénonciation synergique, population, jeunes, femmes, société civile, secteur privé, syndicats. Une synergie de dénonciation relayée par une presse libre. Pour vraiment dénoncer sans faux fuir les détourneurs des biens publics, ceux qui s'adonnent à pied sans vergogne les caisses de l'État. Deuxième axe, c'est revisiter la révision de la loi anticorruption, comme on l'a toujours réclamé, pour la mettre au standard, l'adapter au standard international de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et la Convention de l'Union africaine. Il faut aussi réformer la justice. La reconnaître comme troisième pouvoir face à l'exécutif et le législatif, mais aussi renforcer l'inspection de la justice. Savoir gérer de façon compétente la carrière des magistrats, de façon objective et responsabiliser les juges par rapport au procès rendu. Quatrième axe, c'est les institutions de contrôle qui doivent avoir des moyens et une indépendance nécessaire pour frapper fort contre les corrupteurs. Il y a la Cour des comptes, par exemple. Il faut restaurer ça, monsieur, et juridictionnaire. Il faut aussi une institution spéciale d'investigation des insultes et infractions à caractère de délinquance financière. Et cinquième axe, c'est le renforcement des pratiques qui doivent être considérées comme pratique de prévention. Il faut la rendre obligatoire la déclaration des biens avant l'entrée en fonction et après. Le rendre même obligatoire. Si quelqu'un juge qu'il ne fait pas refaire, il ne fait pas entrer en fonction dans les affaires publiques.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. À la prochaine.